France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Une émission préparée avec Quentin Péchard, Sacha Mattei, Barthélémy Gaillard, Louan Deniel et Loïc Antoine, réalisée par Margot Page et à la technique ce matin, c'est Éric Perruchot-Triboulet. Comme chaque vendredi, le Culture Monde, c'est une émission en deux parties. Le retour de terrain, la journaliste Marine Courtade revient d'Afghanistan. Pour Arte, elle donne la parole aux Afghanes, celles qui rêvent de quitter le pays, échapper aux talibans, aux pressions familiales, se donner la chance d'un avenir professionnel. Mais le voyage est souvent impossible. Et ce, d'autant plus que les conditions d'accueil des réfugiés ne cessent de se dégrader en Europe. C'est le cas au Royaume-Uni, où le gouvernement vient de présenter une réforme drastique du droit d'asile. Asile et immigration, les travaillistes font-ils de la surenchère et pourquoi? Nous en discuterons dans la table ronde avec nos invités John Henley, grand reporter Europe du journal britannique The Guardian, et Clémence Fourton, maîtresse de conférences en études anglophones à Sciences Po Lille, spécialiste de la société britannique contemporaine. Une discussion co-animée avec Marc Semo, notre partenaire du journal Le Monde.
France Culture. Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Et pour commencer, place au retour de terrain. Bonjour Marine Courtade.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante. Vous vous êtes rendue à Kaboul, en Afghanistan, en avril dernier. Vous y avez rencontré, écouté et filmé celles que vous appelez les candidates à l'exil, des jeunes filles et des femmes en recherche de solutions pour quitter le pays, menacées d'arrestation ou d'un mariage forcé, en quête d'un avenir professionnel ou juste d'un lieu où elles ne seraient pas forcées de rester enfermées entre quatre murs. Elles vous confient leurs rêves, mais aussi leur désespoir face à la difficulté que représente le périple de l'exil quand on est une femme afghane. Afghanistan, l'impossible voyage des femmes, c'est un reportage Arte co-réalisé avec Mortaza Beboudi. Et il faut expliquer, Marine Courtade, que le premier défi quand on veut quitter l'Afghanistan, c'est de récupérer ou d'obtenir un passeport. Or, c'est très long, c'est compliqué. Pourquoi? Est-ce que c'est l'administration qui dysfonctionne ou c'est un refus délibéré des talibans de donner des passeports aux femmes en particulier?
Non, heureusement, les talibans acceptent de donner des passeports aux femmes. C'est payant, le passeport, et donc si elles payent, elles ont leur passeport. Mais par contre, c'est très long à obtenir, et pour ça, il faut avoir de l'argent. Et les femmes, aujourd'hui, en Afghanistan, n'ont pas le droit de travailler. Donc si elles n'ont pas de l'argent de côté, c'est impossible pour elles déjà de passer cette première étape et d'obtenir le passeport.
Soit de l'argent de côté, soit une famille qui les soutient dans ce projet. Quelles sont aujourd'hui les possibilités légales du départ depuis l'Afghanistan? Vers quel pays peuvent-elles se tourner pour obtenir un visa?
En fait, c'est très particulier aujourd'hui parce qu'il n'y a plus aucune ambassade en Afghanistan à Kaboul. Et donc aujourd'hui, que ce soit les femmes ou les hommes d'ailleurs, si on veut tenter d'obtenir un visa, il faut déjà réussir à passer la frontière et aller en Iran ou au Pakistan pour là aller demander aux ambassades européennes ou américaines la possibilité d'obtenir un visa.
D'ailleurs, le Pakistan, c'est, d'après les témoignages que vous recueillez, la destination principale et aussi l'étape nécessaire, le passage au Pakistan. Mais ça peut être très long, là aussi, une fois qu'on a réussi à passer au Pakistan.
Et oui, malheureusement, les ambassades disent être débordées. Et donc, souvent, quand les femmes réussissent à franchir la frontière, ce qui est déjà très rare, quand elles arrivent au Pakistan ou en Iran et qu'elles demandent un visa, elles sont souvent un an et demi d'attente. Elles se retrouvent sans aucune réponse, sans aucune nouvelle. Donc elles se retrouvent dans un désarroi total et à devoir du coup gérer une vie quotidienne dans ces pays-là, des pays qu'elles ne connaissent pas, où elles sont souvent seules. Et donc ça crée des conséquences souvent dramatiques pour ces femmes.
Qui peuvent à terme compromettre le projet de départ, si le cercle vicieux de la précarité, des difficultés économiques.
Il y a le cercle vicieux de la précarité, mais il y a aussi en ce moment une menace très forte de ces pays-là qui veulent renvoyer les Afghans dans leur pays. Et donc, il n'est pas rare de voir des Afghanes et des Afghans déportés vers l'Afghanistan du jour au lendemain, alors qu'ils étaient en attente d'un visa.
Quitter l'Afghanistan, c'est le projet par exemple de Marwa, qui rêve, elle, de partir étudier aux États-Unis.
J'ai postulé dans 10 universités et parmi elles, 8 m'ont accepté. Ça m'a rendue tellement heureuse, j'étais vraiment ravie. Je pense que tous les efforts que je fais sont enfin en train de payer. J'ai le sentiment que quand on travaille dur, on peut obtenir tout ce qu'on veut.
Le témoignage de Marwa que vous avez recueilli, Marine Courtade, à Kaboul. Marwa était en première au lycée quand les talibans ont pris le pouvoir en 2021. Aujourd'hui, elle rêve de devenir médecin. Devenir médecin quand on est une femme afghane, ça se passe forcément en dehors de l'Afghanistan.
Aujourd'hui, ça se passe en dehors de l'Afghanistan. Pour Marwa, il faut imaginer à quel point c'est compliqué et son destin, en fait, est similaire à plein de destins d'Afghanes. Quand les talibans arrivent au pouvoir, elle est en première. Pour pouvoir postuler dans une université étrangère, il faut déjà avoir son bac. Et elle n'a pas son bac. Donc du coup, elle s'est accrochée, elle a suivi des cours clandestins, elle a obtenu son bac et là, elle a pu postuler dans des universités étrangères. Mais là, pareil, ça a été un défi puisqu'il faut remplir des conditions. On ne prend pas en compte le fait que ces femmes sont d'Afghanistan, donc il faut remplir des conditions où parfois elle n'a pas les documents qui sont demandés, etc. Elle s'accroche, elle trouve des solutions, elle cherche, etc. Elle obtient une réponse pour entrer dans une université américaine. Et là, Donald Trump annonce que les Afghans n'ont plus aucun droit de venir sur le sol américain. Et donc, retour à la case départ pour Marwa, elle doit tout recommencer et chercher une autre solution dans une autre université européenne cette fois-ci.
C'était en juin dernier, l'administration Trump a interdit l'entrée aux États-Unis aux citoyens d'une douzaine de pays, dont l'Afghanistan. Et elle vous confie le coup dur, extrêmement dur que ça a été pour elle, cette annonce.
Ah bah pour elle, ça a été désespérant parce que elle a déjà eu, pardon pour cette expression, mais l'impression de monter l'Everest en tong, d'arriver au sommet et au moment où elle est au sommet, elle apprend que sous prétexte qu'elle est afghane, le simple fait de sa nationalité lui empêche de rêver en fait et d'aller vers cette porte de sortie sur laquelle elle a travaillé, espéré. Et donc effectivement, c'est des jeunes filles qui sont en grand désespoir, qui sont en dépression et qui malgré ça essayent de s'accrocher puisque c'est leur seule porte d'espoir pour tenter de vivre tout simplement.
Et puis il y avait aussi cette fierté que Marwa avait avoir obtenu l'admissibilité dans 8 universités américaines. On sent dans le reportage la joie que ça lui a procuré quand elle a reçu ses réponses. Mais il faut aussi expliquer que obtenir une entrée dans une université, ça ne résout pas tous les problèmes. Et il faut aussi couvrir les coûts de visa, les coûts des frais de scolarité. Et là, c'était déjà un problème pour Marwa.
Exactement. En fait, une fois que Marwa a eu l'autorisation d'étudier dans une université américaine, elle s'est rendue compte dans les lettres que lui envoyaient ses universités qu'il fallait qu'elle montre qu'elle ait une certaine somme d'argent, qui est une somme exorbitante pour une Afghane, c'était de l'ordre de 20 000 dollars, pour prouver que, en fait, si elle arrivait sur le sol américain, elle était capable de se loger, de répondre à ses besoins quotidiens, de payer son visa, de payer son université, enfin, en tout cas, ce qui restait, ce que la bourse ne lui permettait pas d'avoir. Et donc, quand Marwa a vu qu'il fallait cette somme, elle s'est dit, mais je vais jamais y arriver. Et pourtant, elle s'est encore accrochée. Elle a appelé les Afghans qu'elle connaissait, qui étaient partis à l'étranger depuis 2021, en disant, je suis vraiment désolée de te demander ça, mais est-ce que tu peux m'aider financièrement? Et ça, c'était une honte pour elle de devoir appeler ces gens-là et demander l'aumône. C'est l'impression qu'elle avait, en tout cas. Et malgré ces demandes, ça n'a pas fonctionné.
Marwa vient d'un milieu assez populaire. Elle est soutenue par sa famille dans son projet d'études à l'étranger, en particulier par son père. Comment est-ce que lui perçoit la situation? Quel avenir voit-il pour sa fille?
Le père de Marva est un homme assez exceptionnel qui n'est pas forcément à l'image de tous les Afghans aujourd'hui. C'est un homme qui, aujourd'hui, accepte de subir des pressions familiales extrêmement fortes pour protéger sa fille et pour permettre à sa fille d'arriver au rêve qu'elle s'est fixé. Aujourd'hui, Marva, elle a réussi à quitter l'Afghanistan et elle est dans un des pays limitrophes. Elle est partie avec son père. Son père, il est parti, il a laissé le reste de la famille en Afghanistan avec toutes les conséquences que ça suppose, puisque la mère ne peut pas travailler, les enfants sont petits, donc les enfants, c'est eux qui se mettent à travailler. Et malgré tout ça, le père continue de s'accrocher et d'aider comme il peut sa fille à atteindre son rêve et espérer qu'un jour elle soit médecin.
Marine Courtade, vous rencontrez également Hanifa. Elle souhaite elle aussi quitter le pays avec son petit garçon. Est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quel contexte, dans quelle histoire conduit Hanifa aujourd'hui à vouloir quitter l'Afghanistan ?
Hanifa, aujourd'hui, en fait, c'est une femme qui avait trois enfants, un mari. Et le frère de son mari était un juge sous l'Ancien Régime. Les talibans ont décidé d'assassiner son mari et ses enfants parce qu'ils voulaient se venger du beau-frère qui était juge. Et il y a un petit garçon qui a survécu à cette attaque, qui aujourd'hui a perdu un bras dans cette attaque. Et le rêve d'Hanifa, c'est d'aller à l'étranger pour soigner son fils, pour lui permettre d'avoir une prothèse et d'avoir une vie le plus normale possible. Mais malgré ce rêve-là, il est impossible puisqu'elle ne dispose pas d'argent, ne serait-ce que pour faire le voyage entre l'Afghanistan et l'Iran ou l'Afghanistan et le Pakistan.
Hanifa vit aujourd'hui chez son frère parce qu'une femme qui a perdu son mari ne peut pas vivre seule aujourd'hui sous le régime des talibans, mais elle subit la pression de son ancienne belle-famille, la famille de son mari qui a été assassiné. Qu'est-ce que cette famille exige de Hanifa aujourd'hui ?
Cette famille, elle fait clairement un chantage à Hanifa qui est de dire soit tu épouses l'autre frère, donc le frère de ton mari, soit nous prenons ton enfant et nous l'éloignons de toi. Et donc aujourd'hui, elle vit cachée chez son frère à elle, mais elle sait que cette situation est extrêmement précaire et elle passe son temps à regarder par la fenêtre en espérant ne pas voir sa belle famille débarquer et récupérer son fils.
Quelles sont les options, les possibilités qu'elle peut entrevoir en termes d'exil, puisque c'est là qu'elle se voit un avenir aussi pour soigner son fils? Et quelles sont les possibilités qui s'offrent, le mot est exagéré, mais à Hanifa aujourd'hui?
Malheureusement, il y a très peu de possibilités. Il faudrait qu'elle récolte de l'argent déjà pour pouvoir avoir un passeport. Il faudrait qu'elle trouve ensuite de l'argent pour faire le voyage vers un pays limitrophe, sachant qu'aujourd'hui, en Afghanistan, les femmes ne peuvent pas voyager seules. Elles sont obligées d'être accompagnées d'un homme. Donc là où Hanifa a un tout petit peu de chance, c'est que son frère la soutient. Et donc son frère serait prêt à faire le voyage avec elle jusqu'au Pakistan ou jusqu'à l'Iran. Mais une fois qu'elle arrive dans ces pays-là, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un an et demi d'attente dans ces pays-là. Donc ça veut dire qu'il faut s'organiser, il faut trouver de l'argent, il faut payer le visa pakistanais ou le visa iranien. Et tout ça fait que pour Hanifa, qui aujourd'hui est une femme très fragile au vu de ce qu'elle a vécu, elle ne se sent pas les épaules d'aller jusqu'au bout de la démarche.
Vous avez des nouvelles d'elle ?
J'ai des nouvelles d'elle, j'en ai eu jusqu'à il y a 15 jours. Jusqu'à il y a 15 jours, elle était toujours chez son frère. Mais là, depuis 15 jours, son téléphone est complètement éteint. Donc je ne sais pas si c'est lié à un manque d'Internet, parce que parfois il y a des espèces de shutdown d'Internet en Afghanistan, si c'est un manque d'argent pour payer Internet, ou si elle va me donner des nouvelles dans pas longtemps, mais je doute qu'elle soit partie là.
Marine Courtade, les témoignages que vous avez recueillis ce tournage s'est déroulé à Kaboul dans des conditions dont il faut peut-être dire un mot, c'est-à-dire que vous n'étiez pas autorisé officiellement à recueillir ces paroles, en tout cas vous n'avez pas eu un visa journalistique. Dans quelles conditions avez-vous pu obtenir ces témoignages et accéder aux paroles de ces femmes ?
En Afghanistan, aujourd'hui, on n'a pas le droit de filmer les femmes. Et donc, quand j'ai décidé de faire ce reportage, je suis allée en Afghanistan de manière clandestine. Donc, je n'ai pas demandé de visa presse. On était de toute façon dans une période, c'était avant le séisme, où les talibans ne donnaient quasiment aucun visa presse aux journalistes étrangers. Je suis partie... en prétextant faire du tourisme, parce qu'il se trouve que le tourisme a explosé en Afghanistan. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est vrai. Et donc, je suis allée là-bas en tant que touriste et j'ai filmé avec un téléphone portable en espérant prendre le moins de risques possible pour ces femmes et pour moi.
Et vous filmez aussi à Paris, auprès de certaines qui ont réussi ce périple, qui sont parvenues à quitter l'Afghanistan. C'est le cas de Ousna, qui est aujourd'hui à Paris avec son frère Massi. Elle vous raconte son voyage.
À l'aéroport de Kaboul, juste devant moi, il y avait deux femmes à qui on a interdit de voyager. Les talibans leur ont refusé l'autorisation. J'avais très peur qu'ils m'empêchent aussi de prendre l'avion. À Islamabad, j'ai dû attendre encore un an pour obtenir mon visa français. C'était l'année la plus difficile de ma vie. Notre enregistrement a commencé à 4h20 du matin. Il est 6h30 et on vient de passer la sécurité. Je suis tellement fatiguée. Ils nous ont posé beaucoup de questions. Je vais enfin pouvoir déposer mes valises. On va attendre notre vol. Je suis tellement stressée.
Ousna était journaliste en Afghanistan. De quelle manière a-t-elle subi non seulement des menaces, mais aussi une répression très directe de la part des talibans ?
Oui, Ousna, elle fait partie des journalistes qui ont été arrêtés, qui ont été torturés par les talibans. Elle a passé plusieurs heures en détention, elle a fini par être libérée et à sa libération, pour sa famille, il était très clair qu'il fallait que Ousna quitte le pays. Encore une fois, c'est une femme, encore une fois, les femmes ne peuvent pas voyager seules et donc la famille prend une décision qui peut paraître étonnante. Elle décide que Ousna partira avec son petit frère, qui à l'époque avait 15 ans, donc mineur, et les deux partent en voyage ensemble. Et il se trouve que les talibans acceptent qu'une femme voyage même avec un mineur, et c'est comme ça qu'ils ont pu quitter le pays. Ils ont passé un an et demi au Pakistan, et une fois, après ces un an et demi, ils ont enfin pu arriver en France, à Paris, et recommencer une nouvelle vie.
Et vous les filmez à Paris dans une visite qu'ils font du Louvre. On les voit émerveillés devant les statues, un peu gênés devant les statues de nus à Paris. Quels sont les projets de Ousna aujourd'hui en France ?
Ousna, elle aimerait beaucoup reprendre son métier de journaliste, mais elle se rend compte que malheureusement, c'est compliqué. Et du coup, en ce moment, elle apprend le français à fond. Et elle travaillait jusqu'à il y a un mois dans un magasin de vêtements à Paris.
Est-ce qu'elle a obtenu l'asile ?
Oui, elle a obtenu l'asile, oui.
Merci beaucoup, Marine Courtade. Afghanistan, l'impossible voyage des femmes, co-réalisé par Mortaza Behboudi. C'est donc à visionner sur le site d'Arte. On fera un lien sur la page des retours de terrain de Culture Monde. Et je profite de cette séquence pour annoncer que l'enquête Gaza Project du collectif de journalistes Forbidden Stories, dont le travail a consisté à relayer et poursuivre le travail des journalistes palestiniens blessés ou tués à Gaza, eh bien vient de recevoir le prix Anthem Award, remis par l'International Academy of Digital Arts and Science à New York. Frédéric Mettezo était notre invité dans le retour de terrain pour en parler. Et on fera un lien vers la réécoute sur le site de Culture Monde. Merci beaucoup, Marine Courtade.
Merci. به نام خالق کریم قلم و کاغذ و مایک آماده بزن بره بازم آمادم باید گفتنی خیلی کوتاه برسه دقیقه بشی گوش کن نرو تو جای دختر سکوت نکن تو هم بگو چند تا کلمه پشت تو قوی حسابون کسی نزد
N'abandonnez pas les filles, allez de l'avant et battez-vous encore plus fort. Soyez des guides pour les autres vers leurs rêves et un avenir radieux. C'est l'appel de la rappeuse afghane Sonita Alizadeh dans ce titre Bad Girls, extrait de son album Daughters for Sale. Paru en 2021, Sonita Alizadeh qui est aujourd'hui exilée aux États-Unis. Vous écoutez Culture Monde, seconde partie de notre émission Actu du vendredi, direction à présent le Royaume-Uni.